Vous êtes bien sur RVM, ne quittez pas.
Bienvenue dans l'économie pour tous, l'émission consacrée à l'explication des grands phénomènes économiques et sociaux contemporains à travers l'actualité, par Renaud Chartoir, professeur de sciences économiques et sociales, et son complice Éric Carlier. Bonjour Renaud.
Bonjour Eric.
Renaud, alors je sais que tu es retombé dans tes anciens travers, tu as de nouveau un rhume.
Oui, ce n'est ni l'alcool ni le tabac, c'est le rhume.
Voilà, bah, je tenais à rassurer nos auditeurs sur ton état. Tu traverses une succession de petits épisodes comme ça, médicaux sans gravité, mais qui s'entendent dans l'émission.
C'est ça. Donc, si vous m'entendez avec le nez un peu bouché, la voix un peu nasillarde, c'est malheureusement l'effet de je ne sais pas quoi, on va dire un symptôme grippal ou rhume. Enfin bref, n'empêche pas d'être avec toi et avec tous nos auditeurs, Eric.
Eh ben, tu m'envoies ravi, Renaud. Alors évidemment, le contexte global de tout cela, en plus des virus qui traînent, c'est aussi le contexte lié à l'inflation. Alors contexte globalement quand même assez morose, il faut bien le dire, mais aujourd'hui, tu vas peut-être nous aider à voir un peu de lueur dans cette obscurité, peut-être la lumière au bout du tunnel, parce que tu voudrais illustrer le fait qu'il n'y a pas que des inconvénients à l'inflation, il y a aussi quelques bénéfices à en tirer.
Tout à fait, Eric. Et je vais commencer par présenter ce qui est le plus simple, à savoir les inconvénients qui, alors au moins 2 sur 3, peuvent sembler assez évidents. Le troisième, il est un peu plus théorique. Et ensuite, nous verrons que l'inflation n'a pas que des mauvais aspects. Et là aussi, nous mettrons en avant 3 arguments. Alors, les inconvénients, pour démarrer. Donc les inconvénients, il y en a principalement 3. Le premier peut sembler évident, même si je vais mettre un tout petit bémol. Le premier, c'est la perte de pouvoir d'achat. Bon, ça, tu vas me dire, Eric, pas besoin d'avoir fait de longues études en économie pour dire que quand les prix augmentent, le pouvoir d'achat baisse. En fait, c'est une fois de plus, c'est pas si évident que ça. Et on va reprendre une idée qu'on a abordée il y a 2 émissions de cela. C'est qu'en fait, l'évolution du pouvoir d'achat, c'est le résultat de l'évolution de 2 grandeurs. D'un côté, l'évolution des salaires, et de l'autre côté, l'évolution des prix.
Parce que si tu as 6% et les sorties, d'inflation, plus ou moins, en fait.
C'est ça. Si tu as 6% d'inflation, mais que dans le même temps, ton salaire augmente de 6%, en tant que tel, l'effet sur le pouvoir d'achat, il est nul. Donc, ça va pas de soi que l'inflation entraîne automatiquement une baisse du pouvoir d'achat. Donc en fait, la question à se poser, c'est quelle politique des salaires et quelles possibilités les salariés ont-ils face à cette inflation ?
Alors justement, Eric, Renaud, tu disais lors d'une précédente émission que il fallait éviter absolument de rentrer dans le piège qui consiste à augmenter les salaires au fur et à mesure que l'inflation se présente, pour éviter d'avoir une mécanique qui s'affole.
Oui, tout à fait. Donc, c'est bien pour ça que finalement, quand aujourd'hui on a un retour dans l'inflation, ça se traduit bien par une diminution du pouvoir d'achat, puisque comme on l'a vu il y a 2 émissions, depuis 1982, et pour éviter le cercle vicieux de la boucle inflation-salaire, l'inflation entraîne la hausse des salaires qui entraîne la hausse de l'inflation, on a désindexé les salaires sur les prix. Donc, tu as raison. Aujourd'hui, l'inflation se traduit majoritairement par une baisse du pouvoir d'achat. Mais une fois de plus, c'est pas une évidence en soi. Quand par exemple là, le gouvernement décide, pour répondre au problème de l'inflation, de dégeler le point d'indice des fonctionnaires de 3,5%, on a envie de lui rappeler que l'inflation elle est à 6. Donc pas de problème que le point soit dégelé à hauteur de 3,5. Mais clairement, quand on fait ce choix, c'est-à-dire qu'on acte que effectivement il va y avoir baisse du pouvoir d'achat de la catégorie de salariés correspondants. Et les fonctionnaires ne sont pas les seuls concernés par cette baisse de pouvoir d'achat, bien évidemment.
Renaud, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un petit peu en accéléré, ce qu'on a vécu quand même toutes ces dernières années, parce que même si le taux d'inflation était faible, il était positif, et les salaires n'ont pas pour autant augmenté. Donc en fait, finalement, c'est une simple accélération, non ?
Alors, si on doit en croire les statistiques de l'INSEE, avec évidemment toutes les réserves qu'on doit avoir sur la mesure du taux d'inflation réalisé par l'INSEE, et là je te renvoie, Eric, à nos 2 premières émissions de cette saison, non, le pouvoir d'achat, sauf en 2020, avec la crise de la Covid, mais le pouvoir d'achat ne cesse d'augmenter. Alors évidemment, c'est un pouvoir d'achat moyen. Hein, ça n'empêche pas qu'à l'intérieur de la population française, on a des catégories entières qui voient leur pouvoir d'achat diminuer. Mais une fois de plus, si on doit en croire l'INSEE, non, ce n'est pas une accélération, c'est vraiment un retournement de situation en 2022. Alors, 2020, il y avait déjà eu 2020, mais...
Donc, alors, en fait, ce que tu dis, c'est que avant le phénomène de cette année, la tendance était plutôt à l'augmentation du pouvoir d'achat, ce qui voulait dire que l'inflation était inférieure à l'augmentation des salaires.
En moyenne, c'est ça. Alors, une fois de plus, si en on moyenne. Prend en référence oui, le taux d'inflation calculé par l'INSEE, qui peut amener à débat. Et une fois de plus, ce n'est qu'une moyenne. À l'intérieur, on a des parts entières de la population qui voyaient leur pouvoir d'achat diminuer.
Alors, d'ailleurs, ça pose la question des très hauts revenus qui augmentent peut-être plus vite que les revenus les plus faibles.
Oui, entièrement d'accord. Mais cette année, pour la première fois, on a déjà eu 2020 une fois de plus, mais pour la première fois depuis très longtemps, hors période exceptionnelle type Covid, on va avoir une diminution moyenne du pouvoir d'achat. C'est sans doute pas d'ailleurs une fois de plus les catégories les plus aisées qui vont voir leur pouvoir d'achat diminuer. Donc ça va pas beaucoup changer pour elles. Mais par contre, pour l'ensemble de la population, oui. Et donc, qui dit baisse du pouvoir d'achat, dit baisse de la consommation. Et donc, qui dit baisse de la consommation, dit sans doute, si ce n'est récession économique, voilà, du moins croissance très faible. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est le premier inconvénient assez évident. Le deuxième inconvénient, il est très évident là aussi, donc je ne vais pas m'y attarder trop longuement, c'est la perte de compétitivité prix pour les entreprises françaises. Quand vous avez une augmentation des prix en France, eh bien, ça augmente le prix à l'exportation, entre autres. Et cette augmentation des prix à l'exportation, toutes choses égales par ailleurs, doit se traduire par le fait que les produits français vont être moins demandés, donc moins vendus. Donc là aussi, une tendance à la récession.
À moins que la tendance à l'inflation et à ce phénomène ne soit généralisée dans l'ensemble des pays de la zone euro, par exemple.
Eh bien, bravo Eric, parce que c'est exactement la petite nuance que j'allais apporter, c'est qu'évidemment, la perte de compétitivité prix n'existe que si vous avez une inflation plus élevée que celle de vos voisins. Mmh. Et par exemple, actuellement en France, on est plutôt en dessous de la moyenne européenne. Donc, on n'est pas directement, automatiquement concerné par cette baisse de compétitivité prix. Enfin, un tout petit peu quand même, parce que, comme on l'a déjà vu il y a... Oh là là, Eric, saison 4 ou saison 5.
Ne le dis pas, donc, ne le dis pas.
Je te parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Comme nous l'avions déjà vu, en fait, il y a des pays comme l'Allemagne qui sont spécialisés en fait en exportation sur des produits sur lesquels finalement le prix n'a pas tellement de prise sur les ventes. Parce que ces produits ils sont demandés avant tout pour leur qualité, pour leur innovation, pour leur fiabilité. Et donc, quand bien même les prix augmentent, finalement les ventes ne diminuent pas. Nous, c'est moins le cas. Nous, on est beaucoup plus sur des créneaux, sur des gammes sur lesquelles le prix est important. Donc, la hausse des prix, malgré tout, n'est pas une très bonne nouvelle pour nos exportations.
D'accord.
Troisième inconvénient, alors c'est le plus théorique, c'est le plus abstrait. C'est l'idée que quand vous avez une inflation très basse, aux alentours de 0%, en fait, les économistes ont remarqué que quand l'inflation est basse, ça n'empêche pas qu'il y ait quand même des prix qui augmentent et puis des prix qui baissent. C'est une moyenne, une inflation nulle. Mais quand l'inflation est proche de zéro, en fait, on s'aperçoit que les variations de prix autour de zéro sont faibles. C'est-à-dire que on a en moyenne une stabilité des prix, mais les prix qui augmentent peu, et les prix qui baissent peu. Ce qui fait que quand l'inflation est faible, finalement, en tant que consommateur, c'est assez facile pour nous d'être capable de se repérer finalement dans les différentes variations de prix, de dire « ah bah tiens, je vais faire un peu jouer la concurrence parce que les prix ne changent pas du tout au tout ». Alors que quand vous avez une inflation plus élevée, par exemple 6% actuellement, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on a en moyenne 6% d'augmentation des prix, mais il y a des prix qui augmentent de 10, 15, 20, 25% et d'autres éventuellement qui diminuent. Et là, la variabilité est beaucoup plus élevée. Et quand cette variabilité est élevée, bien ce que disent les économistes, c'est qu'on a beaucoup plus de mal, finalement, à pouvoir consommer de manière un peu rationnelle, de manière un peu efficace. Ça crée beaucoup d'incertitudes chez les consommateurs. Et cette incertitude, elle a tendance à se traduire par un repli sur soi-même et là aussi par une diminution de la consommation.
D'accord. Alors, c'était pas tout à fait le cas avec la crise récente qu'on a connue d'approvisionnement en essence des pompes, qui a provoqué une augmentation drastique de certains prix à certains endroits, alors que la demande était extrêmement forte. Mais bon, ça, j'imagine que c'est un épiphénomène de la consommation.
Oui, exactement. Mais ça ne retire pas ce que je viens de dire, c'est-à-dire que c'est pas pour rien que sur certains produits les prix explosent. C'est parce qu'on a une inflation qui est forte. Et si on avait une inflation qui était faible, même les produits dont les prix augmentent, en moyenne, ils n'augmenteraient pas autant qu'ils n'augmentent actuellement. Bon là, les prix d'essence avec le blocage des raffineries Total, c'est aussi un peu spécifique. C'est, je te dirais, presque une cause non économique, hein, parce que là, c'est une cause politique, une cause finalement qui dépasse les
Oui.
mécanismes économiques en tant que
Oui.
tels.
Mais il y a
Parce que
quand
s'il n'y avait
même.
pas cette grève, les prix n'augmenteraient pas autant.
Il y a quand même dans ce contexte toujours la même tendance, c'est-à-dire en période de forte augmentation des prix, il y a aussi certains commerçants qui en profitent et qui augmentent plus qu'ils ne le devraient et sur d'autres critères que celui de l'offre et de la demande, non?
Oui. Et c'est bien pour ça que quand l'inflation est forte, eh ben en fait, certains prix augmentent vraiment, vraiment énormément. Voilà. Et que si on nous dit qu'il y a 6% d'inflation en moyenne, en fait, ça signifie qu'il y a pas mal de produits qui augmentent de 10, 15, 20%. Parce qu'effectivement, tu as raison, certains commerçants en profitent pour se... Et c'est de bonne guerre, finalement. Hein. C'est plus difficile d'augmenter ses prix quand l'inflation est nulle, parce que là, les consommateurs vont vous dire, bah, vous exagérez un petit peu d'augmenter votre prix. Alors que
Ça se
là,
voit
aujourd'hui,
plus.
finalement, on est prêt à accepter. Oui, voilà, c'est ça. Donc, les inconvénients sont ceux-ci. Tous les trois, ils mènent à la même conclusion, baisse de la consommation, enfin baisse de la production, baisse de la consommation, et donc, si ce n'est récession économique, en tout cas, tendance à la baisse sur la croissance. Bon,
D'accord.
ces trois effets semblent évidents, et enfin, bon, il n'y a pas, ils existent, ces trois effets. La seule chose, c'est qu'il y a aussi des effets potentiellement positifs à l'inflation.
Enfin.
Et donc, ce qui importe pour savoir quel est l'effet global, c'est d'être capable de mesurer finalement dans une balance hein, le poids de chacun de ces effets. Alors, je vais commencer par les deux premiers effets positifs les plus évidents, et ensuite on va voir le troisième qui est plus complexe. Enfin, qui est plus complexe, qui est le plus important. En fait, le troisième est de loin le plus important, mais c'est celui qui est un tout petit peu plus compliqué à comprendre. Le premier, il est assez évident, c'est qu'il y a un grand gagnant à l'inflation, c'est l'État. L'État est un grand gagnant parce que la principale source de revenus de l'État, c'est la TVA. Et donc, comme c'est un pourcentage du prix de vente, automatiquement, lorsque le prix de vente augmente, eh bien, la TVA augmente et donc les recettes de l'État augmentent fortement. C'est bien pour ça que l'État, là, peut se permettre de faire des chèques énergie et ce genre de choses sans que le déficit n'explose complètement parce que les recettes de l'État augmentent en période, d'inflation.
Oui, mais alors est-ce que l'État ne dépense pas dans le même temps plus aussi?
Alors, l'État dépense un petit peu plus. Alors, d'abord pour augmenter le salaire des fonctionnaires, mais bon, comme l'augmentation est de 3,5%, alors que l'inflation est à 6, là-dessus, l'État est plutôt gagnant. Et puis, l'État met en place effectivement des mesures spécifiques hein, pour venir en aide aux entreprises ou aux consommateurs qui sont les plus lésés par l'inflation. Donc, effectivement, cette inflation, elle va aussi se traduire par une augmentation des dépenses de l'État. Mais c'est important de rappeler quand même que le premier effet, c'est l'augmentation des recettes et que donc cette augmentation des dépenses n'est que la contrepartie finalement de cette augmentation
Et on
des
peut
recettes.
peut-être penser que le poste principal de dépense de l'État, c'est plutôt de la masse salariale plutôt que des matières premières.
Ah oui, tout à fait. Je sais plus exactement, mais je crois que la masse salariale doit représenter dans les 2/3 des dépenses de l'État. Si mes souvenirs sont bons, on doit être dans ces eaux-là à peu près.
D'accord.
Donc, le deuxième effet, alors là aussi l'État est gagnant sur le deuxième effet, c'est que, et on en a parlé, je sais plus si c'est la semaine dernière ou il y a 2 semaines, c'est que les gens qui prêtent sont perdants avec l'inflation. Parce que, effectivement, on a une baisse du taux d'intérêt réel. Par contre, les gens qui empruntent, au moins à court terme, sont gagnants. Parce que la valeur de ce qu'ils remboursent est moins élevée que la valeur de ce qu'ils ont emprunté. Aujourd'hui, les taux d'intérêt réels sont fortement négatifs. Quand vous avez un livret A à 2%, alors que l'inflation est à 6%, ça veut dire que vous avez un taux d'intérêt réel de moins 4%. C'est quand même pas rien, moins 4%. Ça veut dire que quand vous avez placé 100 euros en début d'année, en fin d'année, vous avez récupéré 102. Mais pour acheter la même chose qu'avec 100 euros en début d'année, il faut dépenser 106. Donc ces 102, en fait, valent moins que les 100 que vous aviez placés au départ. Donc vous êtes perdant. Par contre, ceux qui empruntent sont gagnants. Et en période d'inflation, Et ça nous remène aussi à une question que tu m'avais posée il y a quelques semaines de cela. Eh bien oui, on a aussi, aussi étonnant que ça puisse paraître, une augmentation des demandes de prêts. Parce que justement, on a tout un ensemble d'agents économiques qui savent que c'est le moment d'emprunter. Et l'État, par exemple, en ce moment, est plutôt gagnant à ce retour de l'inflation dans le remboursement de sa dette. Parce qu'il a emprunté cette dette à 0, 0,5, 1%. Et actuellement, il rembourse avec une inflation de 6%.
D'accord. Bon, très bien. Ouais. Ça, on avait donc déjà un petit peu abordé cette question dans une émission précédente. Voilà. Donc, cet effet positif, on le connaissait déjà un petit peu.
Alors, le troisième effet, lui, il est plus étonnant. Il a été mis en évidence par un économiste dans les années 40 qui s'appelait Arthur Phillips et qui a donné son nom à une courbe qui s'appelle la courbe de Phillips et qui a été le symbole des 30 glorieuses, la courbe de Phillips. Phillips, c'est un économiste anglais, qui a l'idée, en fait, de faire un constat purement factuel, purement empirique. Il regarde, sur une période d'à peu près 70 ans en Grande-Bretagne, chaque année, quel a été le taux d'inflation, et chaque année, quel a été le taux de chômage. Et lui, spontanément, se dit, je suppose que les années où le taux d'inflation a été élevé, on avait un taux de chômage élevé, puisque l'inflation est néfaste, ça crée de la récession, donc du chômage. Et qu'à l'inverse, les années où le taux d'inflation était faible, eh bien, c'est plutôt des années où on a eu un taux de chômage faible. Eh bien, il découvre exactement l'inverse. Oui. C'est-à-dire qu'il découvre que, à quelques rares exceptions près, et elles sont vraiment très rares, la règle, c'est que lorsque l'inflation est forte, le chômage est faible, et lorsque l'inflation est faible, le chômage est fort. Alors là, c'est un coup de tonnerre dans le monde des économistes à l'époque, parce que ça dit plutôt l'inverse de ce que beaucoup d'économistes pensaient. Et en fait, à l'époque, on a un économiste qui s'appelle John Maynard Keynes, qui lui, quand Arthur Phillips publie son article, Keynes est déjà mort. Mais les économistes keynésiens, donc ceux qui sont dans la lignée de Keynes, reprennent cet article et disent « mais en fait, cet article, il prouve que Keynes avait raison. Pourquoi ?» Parce que lorsque l'inflation est forte, c'est aussi parce que la demande est forte. L'inflation est forte parce que la demande est supérieure à l'offre. Or, quand la demande est supérieure à l'offre et que les prix augmentent, quel est le message, le signal qui est envoyé aux entreprises? C'est de leur dire, vous pouvez augmenter vos prix pour répondre à cette hausse de la demande, mais sachez aussi que si vous augmentiez un peu votre production, vous trouveriez aussi des débouchés. Donc vous avez plutôt intérêt à augmenter votre production, ça va vous faire des recettes supplémentaires. Mmh. Donc en période d'inflation, le signal qui est envoyé aux entreprises, c'est plutôt augmenter votre production. Et si elles augmentent leur production, elles embauchent, et si elles embauchent, le chômage diminue.
Oui, j'imagine que cet effet est encore amplifié par le fait que parfois les salaires n'augmentent pas aussi vite que l'inflation, voire même sont contenus par les pouvoirs publics. Et donc, c'est une main d'œuvre qui leur coûte un peu moins cher aussi.
Oui, c'est vrai. Alors après, le problème, c'est que quand il y a de l'inflation, parce que la demande est supérieure à l'offre, si on contient les salaires, elle ne devrait pas durer longtemps, cette inflation. Parce que justement, la demande devrait diminuer. Même si effectivement, c'est plutôt une bonne chose pour les employeurs que les salaires soient faibles. Donc, cette courbe de Phillips, elle a marché pendant toutes les 30 glorieuses. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on avait une petite hausse du chômage, automatiquement, l'État mettait en place ce qu'on appelait une politique de relance, relance par la demande. On augmentait les allocations chômage, on mettait en place des primes pour les fonctionnaires, on mettait en place une politique de travaux publics, et hop là, l'inflation repartait, mais l'activité et l'emploi aussi. Et à l'inverse, lorsqu'on était en plein emploi et qu'il y avait une tension sur le marché du travail, on réduisait un peu la voilure, l'État mettait en place ce qu'on appelait une politique de rigueur, on appelait ça des politiques du stop and go, un stop quand tout va bien, go quand au contraire il y a besoin de soutenir. Et dans ce cadre-là, l'inflation n'était pas une mauvaise nouvelle. L'inflation, c'était pas bon en soi, mais l'inflation, c'était un symptôme. C'était le symptôme du fait que l'économie allait bien. Et elle allait bien parce que la demande était supérieure à l'offre. Voilà. Alors malheureusement, cette courbe de Phillips n'a plus été avérée dans les années 70 et 80. Et en fait, depuis, sache qu'il y a des grands débats entre les économistes pour savoir si la courbe de Phillips est toujours vraie ou non. Et ça change tout à l'analyse qu'on doit avoir de la situation d'aujourd'hui. Parce que si elle est vraie, il ne faut pas s'inquiéter tant que ça de l'inflation. Mais si elle est encore fausse, eh ben, au contraire, l'inflation, on doit la combattre à tout prix.
D'accord. Alors ça, la réponse à cette question, parce que c'était une question, est-ce que c'est encore comme ça aujourd'hui? Tu nous la donneras, j'imagine, la semaine prochaine.
Disons qu'on en rediscutera la semaine prochaine.
Ouais. Très bien. Bon, bah écoute, merci Renaud. Le temps nous manque pour développer davantage, mais c'était totalement édifiant. À très bientôt.
Au revoir, Eric.
Au revoir.
Au revoir.
sur Radio Valois-Mulsien. Vous venez d'écouter L'économie pour tous par Éric Carlier et Renaud Chartois.